Et j'introduis donc avec plaisir nos deux collègues issus de, enfin, qui nous viennent directement de deux universités italiennes et que je remercie de participer à ce colloque. Et donc, d'abord, le professeur Resta, qui est professeur et chercheur au Centre de droit privé de l'Université de Bari. Il a été professeur invité à l'Université McGill l'an passé. Il est spécialiste des droits de la personnalité et un grand spécialiste également de droit comparé, qui manie avec talent les deux types d'ordre juridique issus d'une part du droit civil et d'autre part de la common law. Il intervient aujourd'hui avec le professeur Vincenzo Zenkovic, désolé pour le massacre de votre nom, qui lui est professeur à l'Université de Roma III. Il est formé en sciences politiques et en droit dans plusieurs universités. Il est actuellement professeur à l'Université de Rome, donc. Un grand spécialiste de droit comparé et du droit de la liberté d'expression, ainsi que du droit de la vie privée. Le titre de leur intervention peut paraître mystérieux. Je leur ai d'ailleurs posé la question hier sur le contenu de leurs propos. Je n'en dirai pas plus, si ce n'est que il entre cet exposé plus dans le droit privé, donc on sort de la sphère pénale qui caractérise souvent les incriminations justement des propos négationnistes, ou en tout cas de la manière de gérer pour les États le passé de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils nous entretiendront donc du droit de la personnalité et de la vérité historique. Au regard de ce tristement célèbre massacre des fosses ardéatrines, au cours duquel 335 civils italiens ont été assassinés par les forces d'occupation nazies à Rome le 24 mars 1944, en réaction à un massacre la veille par des résistants italiens de 33 militaires SS. Et donc Hitler a considéré que pour chaque militaire SS, il fallait tuer 50 civil italien pour payer la dette ainsi causée. Et un seul, pour respecter le temps de parole, un seul des deux intervenants ici interviendra tout de suite. Il s'agit de Vincenzo Zenkovic, pardon encore pour le nom, sachant que Giorgio Resta est à votre disposition lorsque nous échangerons après la pause café sur les interventions de chacun d'eux. Voilà, je vous passe la parole.
Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier l'ULB pour l'invitation à cet important colloque et je peux ajouter du point de vue personnel que pour quelqu'un qui vient assez souvent à Bruxelles, c'est un grand plaisir d'être ici dans un milieu académique au lieu de se trouver dans des bâtiments de la Commission européenne. Notre rapport considère le rôle du droit de la personnalité dans la reconstruction du passé. Donc, on a considéré plutôt la jurisprudence civile que la jurisprudence des tribunaux pénals. Et on a pris en considération deux histoires parallèles. D'un côté, l'expérience allemande et de l'autre, l'expérience italienne. Et on peut faire un parallèle assez singulier, c'est-à-dire que, qu'en Allemagne, qui est la patrie de la théorie générale, d'un droit général de la personnalité, qui remonte à la fin du XIXe siècle, là, les cours sont saisis, les juges sont saisis par des anciens nazis ou bien pour des personnes qui étaient impliquées dans le régime national-socialiste, pour empêcher des discours sur leur passé. Et donc, généralement, on trouve un développement de la théorie des droits de la personnalité pour remouvoir le passé. Et donc, la jurisprudence civile cherche d'effacer un passé qui était absolument pas, qu'on ne voulait pas accepter. Et on peut le dire d'une façon assez réaliste que les juges contribuent à absoudre eux-mêmes, parce que les juges tout de suite après la guerre étaient des juges qui étaient formés dans la période nazie et donc avaient eu des responsabilités dans cette période. Et donc le paradoxe, c'est que d'un côté la responsabilité collective de l'Allemagne est niable, mais la responsabilité individuelle des Allemands non. Et donc, il y a un écart entre la vérité judiciaire des singuliers, des particuliers qui ont qui ont eu un rôle dans l'histoire de l'Allemagne nazie et l'histoire telle que nous la connaissons, qu'ont grands événements de ces 12 ans de régime nazi et de la Seconde Guerre mondiale. En Italie, on a une histoire assez différente, c'est-à-dire que il y a l'utilisation par les cours des droits de la personnalité pour l'établissement d'une vérité judiciaire qui est présentée comme une sorte d'histoire tout court. Et parce que la jurisprudence est d'une certaine façon le résultat d'une mémoire partagée. On n'a pas en Italie eu les mêmes conditions psychologiques après la guerre qu'on avait en Allemagne. C'est-à-dire que les événements de la dictature fasciste et de la résistance n'ont pas eu la même vision collective qu'on a eue ailleurs. Et donc, à l'intérieur du même procès, dans ces différents degrés du procès, le premier degré, l'appel et la cour de cassation, on a souvent des résultats opposés, avec ça dépendant beaucoup de la position du juge et de la vision de chaque juge envers des événements historiques. Et donc, ce que nous cherchons de dire, c'est que la perception collective des événements historiques influence le juge déjà après la guerre et que l'histoire est entrée beaucoup avant d'être entrée dans les faits qui sont soumis à l'attention de la cour, ils sont entrés dans la tête des juges. Les juges sont déjà influencés par l'histoire et leur personnelle vision des événements historiques. Et ils transmettent de quelque façon cette vision dans leur jugement. Et quand on regarde ces faits de l'extérieur, comme le fait d'habitude un historien à la distance, on se rend compte de l'impossibilité de mesurer les grands événements historiques à travers l'établissement de la réputation individuelle. C'est très clair, on pourrait, surtout si on est formé à une histoire... À l'école brodélien, on se rend compte que la micro-histoire d'un simple événement n'est pas suffisant pour construire un événement, toute l'histoire. Ce qu'on trouve en lisant la jurisprudence, que la tâche qui est confiée au juge, c'est d'une certaine façon de l'établissement de la réputation individuelle dans le contexte historique. Et donc, on demande au juge pour rétablir, si on veut, la réputation individuelle, pour de reconstruire les faits historiques. Donc, on se rend compte que ce sont deux mesures totalement différentes, la réputation individuelle, les faits historiques. Donc, l'épisode du massacre de Fossedatina est très intéressant comme cas, parce que tout se déroule dans 21 heures, c'est-à-dire l'attentat des partisans, des résistants à Rome, c'est à peu près à 3 heures de l'après-midi du 23 mars 1944. La représailles allemande est accomplie dans l'après-midi vers 1 heure de la journée après. Et on a 21 heures qui ont été complètement reconstruite déjà après la guerre dans les procès et un petit peu avec des autres détails dans les années suivantes. Mais c'est un fait très clair dans sa dimension temporelle, les lieux, les endroits physiques où ça s'est déroulé et sur les gens qui étaient qui ont participé, soit comme les résistants, soit les officiers, les soldats allemands, soit ceux qui ont été tués dans l'attentat des résistants, soit les 335 victimes du massacre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce procès, ces faits, ne sont pas seulement l'objet d'un procès envers les officiers et les soldats allemands qui ont été portés sur la sellette, mais aussi, et ça c'est très intéressant, il y a un très nombre, nombre très élevé de procès, soit pénal, soit civil, qui voit comme parti, soit comme imputé, que, comme accusateur, les résistants, les participants au commando de partisans qui avaient préparé l'attaque. Donc on voit là, on voit là, le même épisode, on voit dans le procès, on voit soit les Allemands, les nazis, que dans des différents procès, les résistants qui sont inculpés d'un côté, sont inculpés par les parents des victimes qui ont été fusillées aux fosses ardéatines comme la cause du massacre, et de l'autre côté, on le voit en même temps dans le procès comme partie civile, comme acteurs qui se plaignent de la diffamation à leur égard par ceux qui les dénoncent, la presse, dans des livres, comme les effectifs responsables du massacre de Fosse-Ardéatine et les met sur le même plan des nazis. Donc on trouve dans ce fait, c'est très intéressant parce qu'on voit tous les deux parties, c'est pas seulement la, disons, la démocratie envers la dictature, la violence allemande, mais aussi on trouve la résistance sur la sellette. Et ce qui est très intéressant, c'est les différents résultats de ces procès, parce qu'on constate que si on veut reconstruire la vérité historique et on regarde ces dizaines, il y a dizaines des arrêts, pas seulement dans le même procès, mais dans les différents procès qui sont déroulés devant tribunaux militaires italiens, tribunaux militaires anglais, tribunal spécial italien, tribunal pénal ordinaire italien, tribunal civil italien, on trouve une quantité de reconstruction du même fait et d'une validation juridique du même fait de façon différente. Parce qu'on s'imaginerait que, ayant déclaré la responsabilité des Allemands, des nazis pour le massacre des fosses ardéatines, évidemment, on aurait déclaré la pleine légitimité des actes de la résistance. Tandis que ce vient nier, parce que dans la question juridique, la première question juridique qui se pose dans les procès aux responsables allemands de du massacre, c'est que les responsables, le colonel Kappler, le chef de la DSS à Rome, invoque la Convention internationale de l'Aye de 1907 et le droit de représailles. Et donc, il déclare que la représailles était tout à fait légitime en accord avec le droit international. Et les juges sont obligés, sont contraints d'accepter cette position comme exculpatoire pour l'assassinat, le massacre de 320 des 335 victimes, tandis que Kappler, le chef des SS, est condamné seulement pour 15. Il est relaxé pour l'assassinat de 320, il est condamné pour l'assassinat de 15 en plus, parce qu'il avait ajouté, sans avoir l'autorité, il avait ajouté 10 civils italiens. En plus, il y avait eu une faute dans la liste qui avait été prise, et que donc il y avait 15 en plus, donc il est condamné seulement pour 15, pas pour 335, et ses subordonnés, les officiers subordonnés, les soldats sont relaxés parce qu'ils ont obéi à un ordre, encore bien que ce soit un ordre illégitime, mais ils ne pouvaient pas se désobéir l'ordre. Donc il y a un seul responsable dans ce procès. En même temps, il y a une série d'autres procès qui se déroulent ailleurs. Le chef de la police de Rome, qui n'a pas participé au massacre, mais qui a fourni la liste de 50 des personnes qui ont été fusillées et condamnées à mort, et l'exécution, il est exécuté. Il y a tous les généraux allemands, en partant du maréchal Kesselring, toute la ligne hiérarchique jusqu'au colonel Kappler, qui sont condamnés à mort, mais la condamnation est commutée en condamnation à vie, et après ils sont amnistiés après 7 ans de prison. Et En plus, 50 ans plus tard, nous trouvons là, les mêmes faits sont soumis à un nouveau procès. Ce qui est intéressant, c'est la vision de la même fait historique à la distance de 50 ans. C'est-à-dire que au moitié des années 90, le centre Simon Wiesenthal découvre qu'un des officiers qui avait participé au massacre habitait en Argentine. Il est extradé. On lui fait un procès, et dans ce procès, il est condamné. Dans la première, il y a 5 degrés de procès. Dans le premier procès, il dit, moi, j'ai obéi des ordres, et donc il invoque la décision de Kapler, et donc il invoque la prescription de son crime, et donc il est relaxé. Il y a un deuxième procès, parce que ce procès est annulé pour des raisons de forme, il y a un deuxième procès et il est ce capitaine Priebke est condamné, mais seulement à 15 ans de prison, dont 10 qui sont amnistiés, et donc il est condamné à seulement 5 ans de prison. Il y a un nouveau procès qui vient fait, il est condamné à vie, mais effectivement, il passera seulement 2 ans en prison. À côté de ce fait, il y a toute une... un certain nombre de procès qui ont été soit civils que pénals, qui ont été portés contre les responsables de la cellule de partisans qui avait organisé l'attentat de Via Rasella où les soldats allemands avaient été tués. Et les résultats, c'est par les victimes, soit les victimes civiles de l'attentat, soit ceux qui ont été fusillés aux fosses ardéatines. Et dans ce procès, ceux qui se plaignent déclarent que dans la décision du tribunal militaire, il y a la qualification de l'acte de l'attentat comme acte illégitime qui n'était pas reconnu par la Convention de l'Haye. Parce que ce n'était pas commis par des belligérants, c'était des partisans, donc ils n'avaient pas des uniformes, ils n'avaient pas les armes en vue, donc c'était contraire à la Convention de l'Haye. Et la décision des tribunaux a été celle de dire que le droit international est... règle seulement les rapports internationaux, donc dans les rapports entre citoyens italiens, ça ne se peut pas appliquer, et dans les relations entre citoyens italiens, il faut appliquer l'amnistie qui avait été accordée à tous les actes commis par les partisans déjà à la fin de la guerre. Donc tous les composants de la cellule sont relaxés. 50 ans plus tard, il y a des actions, nouvelles actions qui ont été portées par les parents des victimes. Et à nouveau, ces actions ont été rejetées, mais souvent dans des différents degrés du jugement, pas en affirmant la pleine légitimité de l'action des résistants, mais plutôt disant que c'était un acte qui était effacé de la responsabilité, soit pénale que civile, par les amnisties qui avaient été proclamées après la guerre. Donc, si on regarde, on a à peu près une dizaine de procès, et dans chaque procès, il y a divers degrés de procès, soit pénal, soit civil, on a des résultats tout à fait contradictoires. Et notre conclusion, si je peux, les faits sont toujours les mêmes. Il y a peu de débats sur les faits. Il y a quelques petits changements, mais la substance, elle est très claire. On peut la mesurer de minute à minute ce qui se passe d'une minute à l'autre, du début de l'attentat jusqu'à la représailles. Donc les faits sont les mêmes. Ce ne sont pas des faits différents qui sont déclarés par les différents cours. Et ça aussi à distance de 50 ans. Les archives ont été ouvertes, mais ça n'a pas changé vraiment les faits. Si on regarde à la justice du point de vue factuel, on constate qu'il y a eu un seul condamné à mort qui a été exécuté, le chef de la police fasciste, un seul responsable qui a passé le reste de sa vie en prison, le colonel Kapler. Tous les autres ont été ou relaxés ou bien ils ont passé quelque chose comme 7 ans, le maréchal Kesseling et tout le reste, pas plus que 7 ans de prison. Les derniers officiers qui ont été condamnés en 1998, ils ont fait à peu près 2 ans de prison, pas plus que ça. Quelle est la vérité historique? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vérité historique? Nous savons quels sont les faits, mais est-ce que nous pouvons établir la responsabilité? Ce qui est intéressant, c'est, je fais une provocation, est-ce qu'on peut juger monsieur le colonel Kapler pour avoir tué seulement, il a été condamné pour avoir tué seulement 15 personnes, 320 personnes, c'est pas sa responsabilité, il n'a pas été condamné, et pour avoir voler 50 kilos d'or à la communauté juive. Le colonel Kapler, c'était les responsables de la déportation de 1020, toute la communauté juive de Rome, qui ont été déportés dans les champs de concentration, et seulement 15 sont retournés. Il n'a jamais été condamné pour ça. Donc nous avons eu, est-ce qu'on peut, notre jugement historique, est-ce que nous jugeons le colonel Kapler seulement sur la base de sa condamnation? Il est responsable pour le vol de l'or pour l'assassinat de 15 personnes. Tout le reste ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas une évaluation historique. Deuxièmement, est-ce qu'on peut juger l'action des résistants qui étaient, parce qu'il y a toute une histoire, c'était des résistants qui faisaient partie d'une cellule très proche du Parti communiste, et une interprétation que l'attentat qui généralement était, et on avait déclaré qu'on n'aurait pas fait des attentats à Rome, c'était une force d'une aile extrémiste de la résistance qui voulait mettre les autres ailes de la résistance, les autres membres de la résistance devant le fait accompli. Et donc, est-ce qu'on peut les juger parce qu'ils ont été relaxés complètement, ou bien du point de vue historique, on peut juger d'un point de vue négatif cet attentat, soit du point de vue militaire, soit du point de vue de la stratégie politique, soit du point de vue de ses résultats. Et finalement, ça pose des questions aux historiens. Est-ce qu'on peut parler de ces faits sans risquer d'être condamné? Parce qu'il y a eu plusieurs condamnations, soit de ceux qui ont attaqué les résistants et qui ont déclaré que les résistants étaient responsables du massacre, étaient de la cause du massacre. Et finalement, c'est un aspect très important. Qu'est-ce qu'on peut écrire dans les livres d'école, dans les livres d'histoire qu'on présente à l'école? C'est un des faits importants, au moins, des livres d'histoire italiens. Comment on peut présenter ça d'une façon historique qui soit respectueuse, soit des faits, soit des décisions des arrêts judiciaires? Si on met des choses dans les livres d'histoire, est-ce que l'historien est responsable? Finalement, et je conclue, pardonnez-moi si j'ai parlé plus que mon temps, nous voulons seulement terminer avec cette considération finale. Il nous paraît que depuis le procès de Nuremberg, nous avons à peu près 70 ans d'histoire de la création judiciaire de l'histoire. C'est-à-dire que nous avons désormais, surtout dans le domaine européen, nous avons un tellement grand nombre de décisions, soit du passé, soit plus récentes, qui devraient permettre à un historien de juger ce que nous, en tant que juristes, et surtout les cours, la façon dans laquelle, de plus en plus, il y a une création judiciaire de l'histoire, et de quelle façon cette création judiciaire de l'histoire peut se comparer avec les autres sources historiques, les autres façons de créer l'histoire, parce que l'histoire n'a pas une seule méthode, n'a pas une seule source, et donc il faut évaluer, je pense que le temps est venu d'évaluer aussi le rôle complétif dans la société occidentale de la création de l'histoire par les juges. Merci.
Merci beaucoup, chers collègues, pour cet exposé très intéressant sur ce massacre qui est finalement assez peu connu chez nous et toutes les questions juridiques qui se sont posées à cette occasion. Et comme vous venez de le souligner, vous l'avez appelé la création judiciaire de l'histoire, ou autrement dit, comment les événements établis par les juridictions peuvent ou non établir l'histoire.